Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un homme qui incarne la passion professionnelle au point que le perso et le pro ne font qu'un. Et c'est lui. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Mohamed Tazi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de Femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Mohamed ?
Ça va très très bien. Et vous-même, Yasmine ?
Heureuse de vous avoir. Alors, est-ce que vous préférez qu'on vous appelle Mohamed ou Mehmet ?
Alors, Mohamed, c'est mon vrai prénom. Mehmet, c'est un prénom que je porte depuis l'âge de 4 ans.
D'accord.
Donc aujourd'hui, aussi bien mes amis que ma famille m'appellent Mehmet, mais je n'ai aucun problème avec les deux prénoms.
Mais même professionnellement, vous appelez Mehmet ?
Exactement.
Même professionnellement, absolument.
Bah forcément, si la maman appelle Mehmet, forcément tout le monde va suivre.
Tout le monde suit, exactement. C'est le prénom qui vous colle à la peau depuis l'âge de 4 ans, comme vous dites. Alors, Mehmet, quand il s'agit de vous, en termes, au niveau professionnel, en fait... Tous les superlatifs sont là. Le pro de la communication, le golden boy de la communication, voilà. C'est tous toutes ces expressions-là qui vous accompagnent. Est-ce que la communication a bouffé Mehmet ?
Je dirais plutôt que je me suis retrouvé dans la communication. Moi, très jeune, j'ai toujours aimé ce métier. Ça veut dire que quand on parle de communication, globalement, on parle de toutes les activités qui sont liées à la communication, à savoir les relations avec les gens, l'événementiel, etc. Moi, pour la petite histoire, à l'âge de 13-14 ans, j'organisais des kermesses là où j'habitais. Ah. Ça veut dire qu'avec les voisins, etc., on se mettait d'accord tous les étés, chaque fois dans une des maisons
du quartier,
voisinage.
Ouais.
Pour organiser une kermesse, faire vivre un peu le quartier, etc. Et puis, pour moi, c'était, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, on s'éclatait, on s'amusait, les parents étaient contents. Et à partir de là, voilà, au fur et à mesure...
On se faisait un peu d'argent de poche aussi. J'imagine.
Franchement, non.
Non.
Pour être franc, c'était pas du tout le but.
Ouais.
Le but, c'était plus de rigoler, de s'amuser surtout. Et puis, forcément, il y avait de l'argent qui était présent à ce moment-là, mais c'était pour les cadeaux à offrir aux gens qui participaient. Mm. Donc voilà.
Alors, quand je dis, est-ce que la communication a bouffé Mehmet, dans le sens, est-ce qu'elle a phagocyté, en fait, est-ce qu'elle a la communication est devenue partie intégrante et Mehmet n'existe
alors, écoutez,
que
quand
communication.
Quand on est dans la com, on est forcément...
c'est pas de la psychologie de comptoir que je vous fais, mais j'essaie de comprendre en fait, parce que à chaque fois que j'ai essayé de trouver des choses sur vous, tout était lié forcément à la communication. Surtout quand on
tout
dit que
fait.
C'est... Voilà.
Ça a été mon métier depuis 18 ans. Ça veut dire que la communication aujourd'hui, je veux dire qu'on a été... À une époque donnée, on vivait de la communication, on faisait de ça notre métier. J'ai travaillé pour des grands groupes dans l'industrie automobile où on a fait de la communication. Au lieu que ce soit une communication académique classique, on a essayé d'inventer des choses.
Absolument.
Et en inventant des choses, ça a plu un peu à l'audience, au management et au grand public surtout. Mm. Ça veut dire quand on a une marque automobile qui se retrouve dans des festivals de musique ou une marque automobile qui rassemble des artistes, des cinéastes, des acteurs, ça veut dire qu'elle est en dehors de son domaine d'activité.
Absolument.
Et du coup, ça fait parler de la marque. Ça veut dire que moi, mon but à cette époque-là, c'était de faire parler de la marque où je travaillais. C'est-à-dire, au-delà d'attendre qu'il y ait un nouveau produit qui sera lancé sur le marché ou qu'il y ait une actualité X ou Y, j'essayais aussi de profiter de ce qui se passait au Maroc pour mettre en avant l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mm. Donc, du coup, on utilisait bien évidemment la communication à travers ces différentes voies.
Et l'événementiel, beaucoup.
L'événementiel, ouais. Exactement, tout à fait.
Alors,
donc, du coup, effectivement, j'étais monsieur Com
ouais.
À ce moment.
Presque monsieur Jet Set, en fait.
Yeah. Jet Set, alors, Pas vraiment, parce que Jet Set aujourd'hui, qui fait de vous quelqu'un de la Jet Set ou peut-être quelqu'un de connu dans le domaine, ce sont les médias. Mm. Et moi, j'ai travaillé dans les médias, j'ai créé une relation de proximité avec les journalistes, etc. Avant, je vous dis, moi je vous parle des années 2007, 2008, 2009, jusqu'à même 2013-14, il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire qu'on était sur Facebook, mais c'était, voilà. Aujourd'hui, on utilise plus les réseaux sociaux, les plateformes sociales, etc. Avant, non. Avant, il ne faut pas le cacher. Il fallait être compétent pour pouvoir être vu, peut-être, et
qu'on puisse parler
de vous dans les médias. Mm.
Alors,
franchement, je vous le dis clairement que les médias ont été quelque chose d'important dans ma carrière, ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
Alors justement, pour revenir à cette expérience avec, on l'appelle la marque aux losanges, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Ce jeune homme marocain arrive avec ses idées différentes, révolutionnaires. Comment vous avez fait pour... comment vous avez réussi à embarquer avec vous le top management dans cette stratégie com ?
Alors, Yasmine, je vais juste être clair dès le départ, ça n'a pas été facile.
Bien sûr.
Ça n'a pas été facile. J'ai commencé avec cette entreprise en 2009, je n'avais que 27 ans. Mm. Et 27 ans, un directeur dans un comité de direction où il y avait... que des expérimentés, que des chevronnés. Pour faire passer une idée, ça n'a pas été facile. Donc, franchement, sur tout mon début de carrière au sein de cette marque-là, il y avait une certaine transparence, une certaine sincérité dans mes propos, dans mes présentations, etc. Ça veut dire qu'on voyait que ce jeune voulait faire entrer des choses qui n'étaient peut-être pas du goût du management ou de quelques directeurs autour de la table. Mais à force d'expliquer et de présenter aussi le pays, moi je suis un fou du Maroc. Moi j'ai dû quitter la France après mes études, après une brève expérience pour rentrer au Maroc. Et du coup, moi, à cette époque-là, autour de la table, il n'y avait que des expatriés, que des Français qui ne connaissaient peut-être pas le Maroc comme moi je le connaissais. Donc du coup, j'ai essayé de mettre en avant aussi bien mon pays que mon entreprise. Et du coup, ça a marché une fois, ça a marché deux fois, etc., jusqu'au moment où ça accroche avec l'ensemble du top management de l'entreprise. Mm. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a capacité d'écoute, parce que pour placer un mot, ça n'a pas été facile au début, donc il y a cette capacité d'écoute qui est un préalable à toute bonne communication par la suite. Il faut avoir confiance en ses compétences et en ses qualités, ça c'est très important.
Bien sûr.
Et à force, moi je me suis forgé une personnalité professionnelle par la suite. Comme je vous dis que ça n'a pas été facile, je suis en train de vous raconter, en même temps je suis en train de
vous rappeler,
de revivre
cette
expérience.
Ouais.
Mais franchement, ça n'a pas été facile du coup, à force de pousser, de vouloir faire des choses nouvelles, créatives, etc., un premier événement, un deuxième, puis un troisième, et voilà, les choses ont marché, et on s'est dit pourquoi ne pas suivre cette direction,
ouais.
Et qui a porté beaucoup à la marque à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, on parlait beaucoup de cette marque-là, parce qu'elle-même, elle avait... énormément de projets sur le marché marocain, une usine à Tanger, de nouveaux produits sur le marché. Le grand président de l'Alliance venait très souvent au Maroc. Donc, c'était aussi le moment d'actualité de l'entreprise sur le marché marocain.
Alors, est-ce que c'est une énergie justement que vous avez insufflée au groupe ? Parce que le groupe est présent, pas uniquement au Maroc, mais c'est un groupe français présent dans plusieurs pays. Est-ce que cette stratégie de joindre l'événementiel à l'industrie, c'est quelque chose qui a pris dans d'autres, à d'autres niveaux aussi.
Bien évidemment, aujourd'hui, quelle est la finalité de toute entreprise ? C'est de pouvoir toucher un prospect ou un client à la fin. Donc, les relations, on les appelle les relations publiques, les relations en général sont très importantes pour toute entreprise, aussi bien avec le personnel de l'entreprise, donc ce qu'on appelle la communication interne, où on doit faire passer les messages qu'il faut, où on doit faire de ses collaborateurs les premiers ambassadeurs de la marque ou du produit, savoir aussi mêler les journalistes avec des artistes, avec des gens de l'art et de la culture en général, qui eux-mêmes véhiculent aussi le message à travers leurs différents métiers. Tout ça, c'est vrai, au début, ça n'a pas été facile. Mais derrière, il y a toujours une stratégie. On doit toujours se coller sur quelque chose. Mm. On doit toujours expliquer que cette façon-là est peut-être meilleure que celle-ci. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas inventé le concept. Le concept existait en amont. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé en France avant. J'ai vu ce qui se passait. Je me suis aussi renseigné sur ce que faisait la marque pour laquelle je travaillais à l'international. Okay. et nous dire voilà pourquoi notre groupe est bien présent, je sais pas moi, en Roumanie, ils sont dans le football, ils sont dans les festivals au Brésil, ils sont dans le, et voilà, on voyait comment on peut bien évidemment joindre l'utile à l'agréable et aussi faire profiter ce qui se passe encore une fois au Maroc, parce que le Maroc, on était installé au Maroc, il fallait bien qu'on puisse motiver un peu la volonté de notre management à créer des relations avec l'ensemble des protagonistes. Et moi, je crois que mon idée, c'était qu'une conférence de presse ne reste pas qu'une conférence de presse avec les journalistes, mais qu'on puisse y intégrer d'autres publics qui pourront eux-mêmes relayer l'information autrement. Mmh.
Alors, est-ce que justement, quand on est aussi jeune comme vous, lorsque vous avez commencé à ce poste-là important, avec des idées pareilles, innovantes, fraîches, jeunes aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se brûler les ailes parce que peut-être que on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'ambition pour son pays, pour le groupe pour lequel on travaille, on a beaucoup d'idées et tout, mais on n'a pas encore l'expérience de la vie, suffisamment d'expérience de la vie pour se protéger des autres.
Franchement, moi, quand j'étais convaincu d'un process ou d'une idée, et mon travail ou l'énergie partait plutôt sur la validation de ce projet. Si le projet est validé, ce que je fais par la suite, c'est que j'essaye de bien le travailler, de voir quelles sont, bien sûr, ce qu'on appelle KPI. Ça veut dire qu'on doit avoir des indicateurs de performance.
Non, c'est absolument.
On peut pas travailler, on peut pas faire des choses, on peut pas utiliser l'argent de l'entreprise sans qu'il y ait des indicateurs de performance. Si on fait tel événement ou telle action, c'est pour quel objectif?
Absolument.
Voilà, ça c'est très important. Mmh. Derrière, ces objectifs-là, on les avait. Mmh. Et on était sûr de les atteindre. Maintenant, c'est comment les atteindre. C'est ce qu'on faisait, nous, à travers des actions qui étaient, je vais dire en parenthèse, différent de ce qu'on pouvait voir.
Alors, juste pour qu'on ne reste pas uniquement sur le groupe, justement, l'idée, c'est, ça veut dire quoi dans votre réponse? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quand c'est factuel, quand les retombées sont là, on ne risque pas de se brûler les ailes? On est protégé des autres?
On n'est pas protégé des autres, mais franchement, on est protégé par soi-même. Mm. Moi, mon principe, c'est d'oser, de prendre le risque. Bien évidemment, il faut avoir du recul, il faut accepter les temps d'arrêt, mais à un moment donné, il faut avancer.
Mmh. Maturité, Mohamed, vous l'avez eue comment aussi jeune? Le fait de savoir danser comme ça, avec un groupe, écouter, enfin, toute cette maturité professionnelle, vous l'avez eue très très tôt, c'est venu d'où?
C'est venu tout simplement d'une maman qui m'a poussé à travailler jeune. Ça veut dire que moi, pendant que mes amis passaient des étés à la plage, moi, j'étais en stage. Et moi, j'ai fait mes stages à partir de 17 ans. Ça veut dire que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aimais beaucoup la communication, l'événementiel, etc. Moi, à 17 ans, j'ai eu mon premier stage dans une grande agence de publicité à Casablanca. Mmh. Quand j'ai eu mon bac pareil, j'ai passé un été en stage. mes 5 années d'études que j'ai eues à Sophia Antipolis, enfin en France, tous les étés, à l'époque, ce n'était pas des stages obligatoires. Hein.
Absolument, je comprends. Bon,
franchement, c'était quelque chose que moi je voulais. Ça veut dire que pendant mes stages, j'ai travaillé pour des agences de publicité au Maroc, en France, pour des agences événementielles au Maroc, en France. J'ai travaillé pour le festival, la première édition du festival de Casablanca en 2005. Voilà, donc à partir de là, moi, c'était... pour moi, c'est de l'expérience. Mm. Forcément, quand on parle 3 mois par an dans un domaine spécifique, et ce n'était pas un stage d'observation, c'était un stage où on travaillait, où on faisait des choses. Donc ça m'a beaucoup aidé, et voilà, forcément... Aussi, après mes études, moi, j'ai eu une expérience de 3 ans au sein de... Enfin, en France. Je travaillais dans la diplomatie. J'étais chargé de mission auprès de l'ambassadeur du Maroc à Paris. Et à ce niveau-là, ça rigole pas, Yasmine. Mmh. On est obligé d'être dans le bain directement, de travailler sur des dossiers conséquents. Et à partir de là, on se forge, bien évidemment. Mais du coup, je vais pas dire que ça a été plus facile une fois que j'ai intégré le monde professionnel... comme ça, mais ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu des choses, j'ai vu un peu, je pouvais un peu différencier entre ça c'est bien, ça c'est pas bien, quelles pouvaient être les lacunes dans cette action ou dans une autre, etc. Donc moi je crois que ce sont mes expériences jeunes qui m'ont aidé à, on va dire, être un peu plus mature à un âge où
on n'est pas forcément.
Je sais pas si on devait l'être ou pas, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est une bénédiction quand on l'a. Maintenant, l'expérience commune fait que la plupart ne le sont pas. C'est une réalité. Mmh. Et voilà. Alors ensuite, vous êtes parti en Égypte, c'est bien ça ?
Alors par la suite, effectivement, j'étais promu pour une position en Égypte. Et à partir de là, c'était pour vivre une expérience nouvelle, parce que la boîte pour laquelle je travaillais est une boîte française. Dans la même alliance, il y a une boîte japonaise, donc même la culture de l'entreprise était différente. Ajoutant à cela, la culture du pays où je me retrouvais. Mmh. Donc en Égypte, c'était d'abord 6 pays à gérer, à partir du Caire. Et puis j'ai passé quand même... 3 belles années en Égypte, où il faut dire qu'aussi ça a été une expérience pas facile, hein, parce que moi j'ai eu un problème de langue au départ, puis de culture, puis comment dirais-je, de fonctionnement, un mode de fonctionnement qui était totalement différent. On sort de notre zone de confort un peu au Maroc et on se retrouve dans un pays seul où devrait régner bien évidemment la compétence et le savoir-faire. Et du coup voilà, moi, j'ai beaucoup appris de cette expérience là d'abord une culture de comment dirais-je de d'authenticité, je dirais, de transparence, de vous savez, les Japonais, comment ils travaillent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, moi j'ai beaucoup appris de cette expérience là voilà, effectivement il y avait des choses qui n'étaient pas faciles, mais à un moment donné voilà, on a pu avancer, on a pu faire les choses, on a
mais
pu
c'est
travailler
bien d'entendre voilà un homme, un professionnel, un pro, dire que le début était difficile. Parce qu'on s'attend en fait que pour les pros, ce ne soit jamais difficile. Que les pros, il y a ce stéréotype du leadership et du leader, et c'est un vrai stéréotype qui n'est pas vrai, qui est de véhiculer que l'image que, voilà, un pro, c'est quelqu'un, lorsqu'il a réussi, ben, il est supposé tout réussir facilement, en un claquement de doigts, les émotions, c'est pas pour lui. Il arrive dans un endroit, allez, il sait d'emblée comment ça fonctionne. Et vous humanisez votre expérience et vous humanisez ça en disant, au début, ben, c'était très compliqué pour moi. Mais après,
c'est la vérité. C'est la vérité, parce que effectivement, je vous donne raison, Yasmine, parce qu'à un moment donné, dans la vie, on rencontre les gens où on a de ces questions qui nous dérangent un peu. Mm. Ah, mais tu as commencé jeune. Ah, quand même, tu as eu cette position, mais tu étais quand même jeune. Oui, mais cette position n'est pas venue comme ça.
Ça, oui.
On ne parle pas d'une affaire familiale. Si on parle de grandes entreprises, il y a eu des entretiens, il y a eu des choses. Pendant ces entretiens-là, on essaie aussi d'échanger avec les gens qui sont devant nous, leur expliquer pourquoi on veut intégrer cette entreprise, qu'est-ce qu'on peut ajouter, quelle est notre valeur ajoutée sur le marché de l'emploi, etc. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient avec des expériences, avec des choses qu'on a vues, avec des moments de doute, hein, il faut le dire. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Des fois, je me retrouve tout seul à me dire, mais j'ai du café aujourd'hui, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, etc. On se pose les bonnes questions. Comme je disais tout à l'heure, il faut marquer les temps d'arrêt. Il faut savoir prendre du recul. Il faut se dire, est-ce que là où je vais est la bonne voie ou pas? Voilà, c'est des choses qui nous aident. Si on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on fonce devant sans rien, à un moment donné, on risque de prendre quelque chose...
Oui, absolument. Voilà. Par rapport à ces questions qu'on se pose, et on va finir là-dessus, est-ce que parfois, justement, il faut accepter que les choses ne se passent pas forcément comme on l'aurait souhaité, mais que c'est ce qui permet de rebondir?
Moi, je suis pour cette phrase-là, parce que je l'utilise beaucoup dans mon quotidien. Rien n'est au préalable tracé pour atteindre un but X ou Y. Il y a forcément des obstacles. Il faut juste qu'on soit transparent avec nous-mêmes, avec l'entourage. Qu'on sache aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'aujourd'hui d'inculquer à mes équipes au sein de mon agence. On essaie toujours de travailler avec cette transparence-là pour qu'on puisse créer cet esprit de confiance, etc. Notre but est d'aller à ce point X, mais il y aura des choses sur le trajet. Il faut qu'on soit préparé. Ça, c'est très important. Et à partir de là, on ne sera pas, bien évidemment... heurté ou quoi que ce soit, mais on saura comment gérer, bien évidemment,
les aléas
de cette trajectoire. Moi, j'y crois beaucoup. Ça veut dire que j'ai jamais dit que voilà comment ça va se passer et comment ça s'est passé. Mon expérience m'a fait comprendre que les choses n'étaient pas si faciles que ça. Il y a forcément des choses ou des j'arrive pas à trouver le mot français, mais c'est à omettre et agir. Des facteurs externes qui essayent, qui sont là et il faut faire avec. Il faut savoir comment les gérer. Et encore une fois, moi je vous dis, c'est très important d'être clair avec soi-même, de savoir où on va. Et voilà. Donc c'est ce qui peut nous aider aujourd'hui à arriver au point auquel nous souhaitons arriver.
Eh bien, Mohamed Tazi, merci infiniment d'avoir été là avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Merci pour cette discussion à cœur ouvert.
Merci Yasmine.
Merci beaucoup, avec plaisir. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média, et bien sûr en avant-première sur Média Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.